Autre chose, nous avons fait une étude sur le tabernacle. Pour ceux et celles qui ne viennent pas pendant la journée. Et puis, j'ai oublié de vous parler d'une expérience que j'ai faite il y a quelques années. J'étais à Brooklyn, et puis au milieu de Brooklyn. Et là, c'est disons un enclave de juifs hassidiques. Et dans cette enclave-là, il y a un magasin qui vend de l'art. Et puis, c'est très rare de voir un magasin d'art parmi les juifs, et en plus de ça, dans un enclave hassidique. C'est très rare de le voir. Et cet homme se fait connaître par simplement par référence, c'est tout. Et quand nous sommes arrivés là-haut, dans son magasin, j'étais absolument bouleversé de voir les choses qu'ils avaient peintes. Et ça, c'était, disons, des peintures qui avaient été faites par un rabbin hassidique de Jérusalem. Et c'est évidemment un peu contesté dans ces milieux-là, mais toujours est-il qu'ils font ces reproductions de ce qu'ils peint, et c'est assez remarquable de voir leur concept du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, en particulier de la Torah, et de voir comment ils s'imaginent la traversée du désert, comment est-ce que ça s'est passé. Et je vous promets, si vraiment c'est ça qu'ils croient, ils ont bien plus de foi que nous. Et alors, je vais vous montrer rien qu'un exemple que j'ai ici. C'est l'image du rocher qui a breuvé le peuple. Et je vais montrer cette image de tous les côtés, de sorte que tout le monde puisse bien la voir.
Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est assez remarquable, hein, comme image. Vous voyez, il y a 12 fontaines, hein, une par tribu. Mais qu'est-ce que vous remarquez dans ce rocher?
Il y a un
profil
à droite.
D'où vient l'eau?
Elle
vient d'où cette eau? Vous la voyez venir de l'eau? C'est de la roche qui vient de l'eau. Hein? Ah. C'est ça qui faut. C'est ça qui faut. J'ai entendu beaucoup de théories, comme par exemple, oh, il a tapé juste dans un coin, une réserve d'eau qui était sous le sol que le déluge n'avait pas utilisé, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. C'est un geyser d'eau qui était là, et puis ça, tout d'un coup, ça s'est sorti. Et non, c'est pas ça qu'ils pensent. Ils pensent que l'Éternel a frappé cette roche de telle sorte qu'il y a une réaction en chaîne, comme quoi cette roche est devenue de l'eau. Et que, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le désert, c'était dans le secret de cette colonne de feu et cette colonne de nuée que la roche suivante était frappée pour faire de l'eau. Et il y avait toujours de l'eau partout où le peuple d'Israël s'arrêtait. Intéressant, hein? C'est ça qu'ils croient. Et alors, ça tient, n'est-ce pas? Parce que quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que ce rocher qui les suivait, c'était le Christ. On ne pouvait pas mettre des barres au travers d'un rocher comme ça, d'une porte.
La pierre de l'homme.
Pardon?
La pierre de l'homme rocher.
C'est autre chose, ça. Mais l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas porter un rocher comme ça, c'était inutile. Ensuite, il fallait qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir abreuver 2 millions de personnes, plus les animaux. Donc, c'est assez remarquable de voir comment ces juifs qui ont énormément étudié la chose voient ces miracles. Ils ne les voient pas comme nous. Ils les voient bien plus grands et bien plus merveilleux encore. Il y a une immense foi dans ces gens. J'ai été très très impressionné par cet artiste. Et nous pouvions discuter des choses de
de l'Ancien Testament, et il était lui-même aussi bouleversé que moi d'avoir enfin un acheteur qui comprenait quelque chose. Et puis qu'il puisse parler avec lui du livre qui est pour lui le livre des livres, n'est-ce pas, la parole de Dieu. C'était très très beau, très belle journée que nous avons passée là avec ma femme, ma bouquine. Bien, je voulais vous montrer ça pour que vous puissiez, pour que ça fortifie votre foi, pour que vous ne soyez pas limité par l'extraordinaire. Notre Dieu est un très très grand Dieu. Ce soir, nous allons parler de prophétie de nouveau. Nous allons parler du retour du Seigneur. Et nous avons vu au cours de ces derniers jours qu'il y a plusieurs structures de voir ce retour du Seigneur, surtout en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, vraiment, quand le Seigneur va enlever l'Église. On sait qu'il va l'enlever, et puis que ça va arriver soit avant la tribulation, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. C'est pas ça qui est très important, mais disons, la parole semble indiquer que ça va arriver avant. Donc, il va nous épargner de l'heure du jugement, l'heure de la souffrance. Et ça, c'est une chose, non pas pour notre confort, hein. C'est une chose qui doit entrer dans le programme des temps, n'est-ce pas? Souvenez-vous que si nous devons souffrir pour la foi, ce sera l'évangélisation la plus simple. Parce que le plus on souffre pour sa foi, le plus il y a de gens qui se convertissent. Ça, c'est connu, et c'est quand l'Église ne souffre pas, qu'il n'y a rien qui se passe. Okay? Alors, si vous demandez au Seigneur le salut de milliers de Québécois, réjouissez-vous s'il y a des persécutions au Québec. Alors, nous avons donc, et je mets sur le tableau juste pour situer, nous avons donc, là en premier, nous avons cette l'enlèvement de l'Église, n'est-ce pas? L'enlèvement, et ça va être suivi d'une période de 7 ans. À ce moment-là, il y a une pendule qui commence à tiquer. Ça va être 7 ans dans lesquels nous allons voir une prospérité suivie d'un jugement. De jugement sur la terre. Et ces jugements, comme beaucoup d'entre nous le savent, il s'agit des 7 sceaux que nous voyons à partir de Apocalypse au chapitre 5. C'est l'ouverture de ces 7 sceaux qui vont en trois sections de jugement, avec des interruptions entre chacun de ces jugements et entre chacune de ces séries, qui permet, disons, une repentance, et qui ouvrirait une repentance à l'humanité, mais qui au contraire finissent par un endurcissement terrible contre Dieu, des guerres incroyables, des cataclysmes qu'on n'a encore jamais vu. Ceci sera écourté comme l'évangile de Matthieu dit, parce que si ça continuerait, il n'y aurait plus personne qui vivrait. Alors, ces jugements vont arriver, ça c'est certain, ils vont arriver. Après ces 7 ans, qu'est-ce qu'on aura? On aura le jugement de ceux qui sont morts dans cette période-là. Il va y avoir un jugement et il va y avoir la résurrection des justes. La résurrection des justes. C'est-à-dire, ces justes, ce sont ceux qui ont été fidèles au Seigneur pendant ces 7 années de jugement. Et il y en aura beaucoup qui vont mourir et qui seront ressuscités à ce moment-là. Après, il y aura la venue du Seigneur comme roi, la venue du Seigneur comme roi sur la terre, comme roi, et puis après, il y aura donc l'installation du règne. Bon, on dit que c'est un règne de 1000 ans.
qu'il se peut que le numéro, le nombre soit exact, il se peut que ce soit symbolique, on ne sait pas.
Pour le moment, c'est ce qui est dans la parole de Dieu, eh bien, on va l'appeler en installation d'un règne qui va durer 1000 ans. Mais il aura une fin. Et aujourd'hui, on peut étudier cette histoire du règne, parce que c'est très important. Il y a beaucoup plus de passages qui parlent du règne que de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est clair. Il y a eu des idées théologiques qui ont pris une certaine importance, par exemple avec Calvin. L'idée théologique de Calvin, c'est que il faut que le monde se tourne entièrement vers Dieu, et quand le monde sera entièrement chrétien, et bien à ce moment-là viendra le règne, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idée calviniste. Il y aura des jugements, tous les chrétiens seront jugés aussi bien que les non-chrétiens, et il y aura des jugements, et après cela, ce sera le ciel ou l'enfer. D'autres ont apporté d'autres idées. Mais ce qui est important, c'est que ici, comme je disais hier, nous avons comme un mur avec des petites fenêtres et nous voyons un bout et un bout et un bout et un bout et on ne sait pas ce qu'il y a entre deux. On imagine, on se fait une idée, mais il se peut que le paysage soit très différent. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces vues partielles? Parce que tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est simple. Il nous a révélé ce dont nous avons besoin de savoir. Imaginez-vous que nous avons des yeux dont la perception est très limitée. Si on avait des yeux spirituels en même temps, si ces yeux pouvaient voir les anges, si ces yeux pouvaient voir les esprits malins, on n'aurait pas les nerfs pour supporter ce qu'on verrait. Il faut avoir une infrastructure pour supporter certaines choses. On n'aurait pas les nerfs pour supporter. Donc Dieu nous a fait pour un but précis, avec une idée précise de ce que nous devons être. Par exemple, si on prend notre ouïe, eh bien, nous savons que les chiens, ils peuvent entendre des sons à des fréquences beaucoup plus élevées que nous. À partir de 16 000 mégahertz, je crois. Eh bien, 16 000 hertz, on n'entend presque plus. Il y en a peut-être ici qui n'entendent plus à partir de 12 000 hertz. N'est-ce pas? Parce que quand on devient plus âgé, on entend toujours moins. Et une oreille très fine peut entendre jusqu'à 18 000 hertz. Mais les chiens, ils entendent jusqu'à 26 000, hein, facilement. 30 000, ils entendent très bien. Alors, c'est pour ça que quand vous avez certains appareils ménagers que vous enclenchez dans l'appartement ou dans la maison, votre chien, il va se cacher parce que ça lui fait mal aux oreilles. Tandis que pour vous, ça ne vous gêne pas. Alors, c'est la même chose avec les yeux. De même avec notre intelligence. Notre intelligence est limitée à certaines choses. On est limité seulement à la perception de certaines dimensions. Nous vivons dans un monde à quatre dimensions, n'est-ce pas? Longueur, largeur, hauteur et taux. À part ça, il n'y a pas d'autres dimensions. Mais on peut imaginer d'autres dimensions. Et une dimension, c'est la dimension spirituelle. Mais on ne comprend pas. On ne la comprend pas parce que on ne sait pas comment les gens spirituellement se communiquent. On ne sait pas. Ce n'est pas électrique, c'est autre chose. Dieu ne nous a pas donné ce contrôle sur ces choses-là. Il nous donne, par exemple, des petits témoignages de choses où il intervient dans certaines choses et on se dit, ça c'est le Seigneur. C'est trop extraordinaire pour que le Seigneur n'y soit pas. C'est probablement ça. Il surface ici et là. Il arrange, il contrôle les choses. Et probablement, il contrôle les choses bien plus que nous le pensons. Par exemple, quand il dit que c'est lui qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Est-ce que vous avez entendu cette parole de sa puissance? Non. Moi, je l'ai jamais entendu. Je ne sais pas comment il soutient les arbres et l'herbe et tous les animaux de la terre. J'en sais rien. Comment est-ce qu'il soutient les étoiles et puis tout? Il organise toutes les choses dans l'univers. Moi, j'en sais rien. Mais c'est comme ça. Donc, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne peut pas percevoir. Et l'homme, pourtant, a fait des appareils électroniques assez sophistiqués, hein, qui ont agrandi le spectre de l'ouïe, des yeux, des rayons, etc.
Et même avec tous ces appareils-là, on sait fort peu de choses, de moins en moins. Et alors, ce que la parole de Dieu nous donne, ce sont des événements qui sont donnés par révélation, n'est-ce pas? Et on ne peut pas voir la parole de Dieu autrement que par révélation. Si on essaye de mettre ça sur un plan scientifique, intellectuel ou philosophique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Et je dois vous dire qu'il y a eu deux courants dans l'Église qui ont commencé au milieu du 19e siècle et qui sont encore très forts. C'est ces courants-là de la haute critique dont un dit que la parole de Dieu n'est pas écrite par les auteurs qu'ils prétendent, que c'était des traditions qui ont ajouté, modifié, etc. Et puis qu'il faut maintenant désembroussailler la parole de Dieu pour qu'on arrive jusqu'au texte original. Alors évidemment, chacun a son idée, personne ne sait où on en est, n'est-ce pas? C'est une magnifique manière de vendre des livres, et puis de se faire beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est toujours devant un choix. Dieu nous place toujours devant un choix. Est-ce que je suis Dieu, ou est-ce que toi tu es Dieu? En fin de compte, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que je suis qui je suis, ou bien est-ce que je ne suis pas qui je suis, et alors c'est toi qui prends ma place? Et si tu prends ma place, eh bien, tu vas de ton côté, moi, je ne veux pas t'ennuyer. Je ne veux pas je m'arrête. Et puis, je te laisse aller. Et ça, c'est la question qu'il pose à l'homme continuellement. Et il la pose même aux chrétiens. Quand il lui fait certains signes, et puis ce chrétien refuse d'obéir, refuse de se soumettre. Il y a un moment où le Seigneur dit, écoute, tu es sauvé, tu es ok, je t'aime, tu as été racheté par la croix, mais autrement, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ta vie? Tu veux pas vivre une vie chrétienne, tu veux vivre ta vie à ta manière, alors je te laisse aller. Et puis, on prie, et puis il n'y a rien qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? On ne voit pas les réponses. On ne voit pas notre vie être féconde. On n'a plus d'excitation dans la vie spirituelle. Et on a de la peine à se repentir, on a de la peine à vivre, à concevoir ce que c'est que la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que on veut la vivre à notre manière. Ou on veut la vivre partiellement à notre manière, partiellement à la manière de Dieu. On voit les promesses de Dieu comme une espèce de smorgasbord, et puis on a notre assiette, puis on prend ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est des attitudes humaines. Totalement humaines. Hein. On y est tous dedans. Et c'est pour ça que nous avons besoin de, comme on a vu ce matin, d'aller à la cuve. Vous savez, comme le prêtre. Il allait à la cuve. Quand il était sale, quand il avait du sang sur ses mains, sur ses pieds, dans sa figure, il allait à la cuve, et puis il se lavait. Et entre chaque sacrifice, il se lavait. Et chaque matin, il se lavait en entier. Donc tous ces prêtres, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils se lavaient à cette cuve. Et puis il y en avait d'autres qui apportaient de l'eau, qui remettaient de l'eau, et puis qui enlevaient l'eau sale, et puis qui remettaient dedans. C'était un travail considérable d'avoir tous ces prêtres qui se lavaient et purifiés pour le service du Seigneur chaque jour. Et chaque sacrifice, c'était pas une petite affaire, c'était une grosse affaire. Donc, je vous dis, on ne met jamais assez d'importance sur ces choses spirituelles, sur ces soins spirituels quant à sa vie, quant à sa relation avec Dieu. Jamais assez. Et celui qui cherche vraiment à voir la puissance de Dieu dans sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire? On a vu ça ce matin. Première chose, c'est écouter. Faire silence, écouter. Et puis après, la deuxième chose, eh bien, c'est s'humilier, se repentir, s'humilier. Et vous savez, même si vous dites, mais de quoi est-ce que j'ai à m'humilier? Demandez au Seigneur, il vous le montrera. Il vous le montrera très rapidement. Ensuite, il le montre par sa parole, il le montre par son esprit, il le montre par vos attitudes, il le montre par vos relations, il le montre par toutes sortes de choses. Et puis, une fois qu'on s'humilie, qu'est-ce qu'on fait quand on s'humilie? On crée un vide en nous. Et puis, qu'est-ce qui vient après ce vide? La grâce. N'est-ce pas? Toujours. Celui qui s'humilie fait un appel de grâce. Cette grâce arrive en nous, cette puissance de Dieu arrive en nous, et qu'est-ce qui se passe? On commence à discerner. On commence à discerner cette volonté bonne, agréable et parfaite, n'est-ce pas? Et on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et c'est pour ça qu'on vient dans des week-ends comme ça. C'est parce qu'on a besoin d'avoir ce discernement de la grâce, par la grâce. ce discernement de Dieu, de la volonté de Dieu, cette écoute à un autre niveau qui nous permet de discerner cette voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est une voix qui est tranquille, une voix qui est douce et qui s'entend au milieu de la tempête. Même malgré la tempête, elle s'entend, seulement elle s'entend dans le cœur. Alors, frères et sœurs, ce soir, on est là pour écouter ce que le Seigneur va faire. On a vu hier l'enlèvement et on a vu aussi ce qui se passe après le grand règne, lorsqu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous avons vu ce qui concerne l'Église. Oh, on l'a vu très brièvement, mais on a vu ce qui concerne l'Église. Et maintenant, nous voulons voir ce qui se passe entre deux. C'est-à-dire, l'Église est l'épouse de Christ. Il y aura eu le mariage de Christ, avec Christ, avec l'agneau, et puis, aux noces de l'agneau, et puis après, eh bien, après ces noces de l'agneau, eh bien, nous allons entrer exactement au point 4 de notre liste. Mais nous voulons parler un petit peu, d'abord, brièvement, de ces jugements. Bon, je pourrais arriver avec des tonnes de versets, on y passerait 2 heures et on n'aurait pas fini. Mais les jugements, c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse, les 21 jugements qui vont arriver les uns sur les autres, n'est-ce pas? Avec toute la trahison de Babylone et toute l'iniquité qui va être jugée, ça va être des cataclysmes sur toute la terre qui vont tuer les 3/4 des gens, annihiler la nature, ça va être vraiment une destruction massive dans toute la terre. Ça va être quelque chose d'épouvantable. Comment est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va être par la main de l'homme ou par la main de Dieu? On ne sait pas exactement. Les choses ne sont pas très claires dans les descriptions qui nous sont données. Mais considérant les armements qui existent aujourd'hui, tout est possible. Hein? Bon, disons, pour moi, ce qu'il me semble, c'est quand le moment des jugements seront là, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Donc Satan aura libre action pour faire ce qu'il voudra. Et il va enfler les hommes d'orgueil et de rébellion contre Dieu, il va les exciter, et puis cette amertume contre Dieu va se retourner les uns contre les autres, et puis il va y avoir des destructions épouvantables entre eux, n'est-ce pas? Mais à la fin du jugement, on a tous entendu parler d'Armageddon, n'est-ce pas? Cette vallée de Megiddo. Et ça va arriver à un moment où il y aura des mouvements d'armées extraordinairement forts. Le roi du Nord sera descendu jusqu'en Égypte et il entendra des rumeurs de son pays et il fera demi-tour et il remontera par le pays de beauté, comme c'est dit, n'est-ce pas? Le pays merveilleux. Il arrivera dans la région de Megiddo, les puissances de l'Est arriveront là aussi, et il y aura un conflit énorme dans cette vallée, il y aura les puissances de l'Ouest aussi, tout arrivera là, et Jésus a choisi ce moment-là pour venir personnellement avec ses anges de lumière. On en a parlé au cours de la semaine des anges de lumière. Hein? Mais il viendra avec des légions d'anges de lumière. La légion, c'est 12 000, hein? Et il y aura tellement d'anges de lumière que les puissances terrestres, même avec tout leur matériel, ne sera que rien du tout. Nous ne pourrons rien faire contre les puissances du Seigneur. Et il jugera ces nations avec le feu. La terre a été jugée avec l'eau, mais cette fois elle sera jugée avec le feu. Et ce sera un feu partiel. Parce que le feu total viendra quand il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais ce sera un feu partiel. C'est-à-dire un feu qui va dévorer et annihiler les armées qui sont contre Dieu. Et une fois que ça se sera fait, il restera au fond des résidus, des petits restants de chaque nation. Il y en aura dans toute la terre, de ces petits restants qui se seront sauvés au travers des horreurs qui se sont passées dans le jugement. Et alors, le Seigneur viendra avec nous sur la terre, et avec ses anges, et avec ceux qui seront ressuscités, la résurrection des justes, et entre tous, on s'arrangera pour réorganiser la terre, et pour installer ce royaume selon ce que Jésus fera. Maintenant, on peut regarder dans l'Apocalypse au chapitre 19 et 20, mais nous regardons, nous voyons que à cette époque, le Seigneur, lui, Apocalypse 19, lisons ça à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Donc c'est le moment où Jésus intervient. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes, il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur. Ces armées, c'est nous. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. On connaît ce verset. Et il se référence à Timothée, il se référence à d'autres rois, n'est-ce pas, même dans les tombes. Mais c'est pour dire qu'à ce moment-là, eh bien, Jésus viendra en intervention directe sur la terre, personnelle et d'une manière cosmique, il sera là. Bon, ceci dit, nous voyons que le royaume va être restauré. On ne sait pas ce qui restera de la terre pour tous ces jeunes qui seront là, mais toujours est-il que le Seigneur va pouvoir nous utiliser dans ce but-là. Et ces peuples vont commencer à augmenter. En plus, il y a une chose que nous apprenons dans l'Apocalypse, c'est que Satan sera lié. Au chapitre 20, puis je vis descendre du ciel, verset 1, un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, on voit que la source du mal, la source du mensonge, tout ce qui est spirituel et qui engage l'homme à douter de Dieu, n'est-ce pas, c'est le serpent qui a fait douter Ève de Dieu. Eh bien, ce serpent-là sera lié. C'est-à-dire qu'il sera, si vous voulez, dans une marmite pendant un certain temps, et puis il ne pourra pas mentir aux gens. Et alors, ces peuples vont s'agrandir, ils vont se multiplier, et il y aura une nouvelle culture sur la terre. C'est-à-dire que ceux qui sont les justes qui seront ressuscités de ce jugement sur la terre, ces justes-là, seront au fond les évangélistes. Et la plupart, d'après ce qu'on comprend, seront les juifs. Et ils vont évangéliser la terre, non pas de l'évangile que nous connaissons, mais plutôt de cet évangile du royaume, n'est-ce pas? Et cet évangile-là va aller dans toute la terre. Et ils vont connaître le Seigneur. Ils vont le connaître, lui. Ils pourront le voir. Ils seront conscients que nous sommes là, en tant qu'Église. Et qu'il y a des promesses pour eux. Mais au cours des années et au cours du temps, n'est-ce pas, ces croyances ou cette foi que ces gens auront n'auront jamais été mis à l'épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera quelque chose de totalement habituel, comme pour nous, parce qu'ils ne seront pas différents. Donc, il y aura pendant le jugement, il y aura quand même, une loi, bien sûr, et il y aura aussi des jugements. Ceux qui désobéissent ou qui contestent l'autorité du Seigneur, ce sera un péché puni de mort. Et ça, c'est l'idée, n'est-ce pas, du sceptre de fer. Il régnera avec un sceptre de fer. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas supporter, le Seigneur ne pourra pas supporter une personne qui ne se soumettra pas à son règne. Et ce péché-là sera immédiatement, exécuté sur cette personne-là. Donc ça va être un règne merveilleux, mais aussi qui sera assez sévère. Parce qu'il faut bien penser qu'il y a toujours la nature pécheresse en nous, dans l'homme. Elle ne change pas, elle est toujours là. Seulement cette nature pécheresse, il faut avoir un moteur pour la faire marcher. Et ça, c'est Satan qui s'en charge, n'est-ce pas? Mais maintenant, le Seigneur ne peut pas, à la fin de sa vie, il ne pourra pas, disons, prendre tous ces gens dans, disons, au ciel ou dans son habitation éternelle sans que chacune de ces personnes puisse faire un choix. Il faudra qu'ils puissent faire un choix comme nous devons faire un choix. Il faudra que ces personnes, après 1000 ans, soient exposées à ce choix. Et c'est pour ça que Satan sera relâché. Et il y aura des milliers de personnes qui vont se liguer sous son influence. Et ces personnes-là vont être jugées de nouveau à la fin du règne de 1000 ans. Maintenant, quand nous considérons ce règne de 1000 ans, la Bible chante ce règne partout. N'est-ce pas? On n'a qu'à lire dans Jérémie, après le chapitre 31, dans Ésaïe, à partir du chapitre 60, et dans d'autres chapitres, qui montrent la gloire de ce royaume. Ça va être enfin ce que Dieu voulait faire avec son peuple, enfin ce qu'il voulait faire pour l'homme sur la terre. Enfin, tout ce qu'il avait espéré, il pourra le faire là. Mais ce sera la dernière chose qu'il fera avec la terre. Après le jugement de ce peuple pendant le millénium, à la fin du millénium, eh bien, à ce moment-là, les cieux et la terre seront dissous et on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est assez caractéristique de la part de Dieu. Il ne répare pas, il fait des choses nouvelles. Et comme nous ne sommes pas réparables, alors le Seigneur nous a donné une nouvelle vie, n'est-ce pas? Et cette nouvelle vie, elle est attachée à Christ. C'est-à-dire que partout où Christ est, nous sommes. N'est-ce pas? C'est un énorme réconfort pour nous. Un énorme réconfort. De savoir que peu importe ce qui se passe sur cette terre, eh bien, nous sommes attachés à Christ. C'est là où est notre position. Et c'est une bénédiction extraordinaire. Maintenant, je veux lire deux ou trois choses dans l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu s'adresse aux Juifs et nous voulons commencer parce que le Seigneur Jésus dit à son peuple au chapitre 13. Et nous commencerons au verset 24. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Et lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait le livret? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant livré, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord livré et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je continue. Il leur proposa une autre parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole, et ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai la bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a les oreilles entende. Maintenant, il continue. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de très belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes et ils jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Moi, ils avaient plus de perception que moi. Ici, ce que nous voyons, c'est une perspective du règne, du royaume, n'est-ce pas? Royaume de Dieu. On est dans l'évangile de cette époque. N'est-ce pas? Maintenant, on peut faire des applications pour nous, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais, principalement, nous voyons que Jésus, il est là, à ce moment de sa vie, et son ministère, c'est à son peuple, pour quoi faire? Le royaume. C'est ça auquel il est à travailler. Il travaille à instruire son peuple pour le royaume qui va venir. Mais quand il est rejeté comme roi, qu'est-ce qui se passe? Autre chose arrive. L'histoire du royaume est prématurée. On ne peut plus le faire. Parce que si on rejette le roi, plus le royaume. Et si le roi veut venir avec des légions d'anges, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le peuple va être annihilé, n'est-ce pas? Alors, il faut préparer le peuple d'une autre manière. Il faut qu'il passe, non pas par la route rapide, mais par la longue route qui va par tous les contours. N'est-ce pas? C'est un autre désert. Et alors, bien sûr, pour l'Église du début, ou pour les disciples, c'était très difficile de comprendre ça. Parce que dans leur tête, ils se disaient, voilà, on a un royaume, on a un roi, nous sommes les 12 là, et c'est clair qu'il va nous prendre pour des premiers ministres, pour des grands ministres de ce royaume. On aura des positions. C'est quelque chose d'international, c'est très très fort ce qu'on a. D'ailleurs, regardons ce roi, il guérit les malades, hein? La maladie n'a plus aucune espèce d'importance, les gens peuvent vivre. Il guérit des maladies impossibles, mortelles, la lèpre. Il guérit les infirmes. Il guérit des boiteux, il guérit des jambes cassées, il guérit des quantités d'infirmités. En plus, il ressuscite les morts. Alors, s'il ressuscite les morts, ça veut dire quoi? On est invincible. On est invincible. Avec lui, on peut conquérir n'importe quoi. Voilà comment il pose. Et tout d'un coup, changement total de scène, ce roi leur dit, je vais être crucifié. Alors Pierre lui dit, mais ça n'arrivera pas, propose-toi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Arrière de moi, Satan. Vous comprenez un peu la mentalité de ses disciples? L'ajustement, même de ce qu'ils savaient sur le plan prophétique, c'était abrutissant. Parce que eux, ils attendaient ce royaume. Tout le monde attendait ce royaume. Tout le monde criait pour ce royaume. Tout le monde lisait Esaïe. Tout le monde attendait cela. Et tout d'un coup, grand changement de scène, c'est plus du tout cela qui va. Alors, on croyait tourner une page d'un livre, et puis, il y en avait deux. Ils tournaient la page, puis ils voyaient « règne ». le règne du Seigneur dans le monde, avec Israël qui va être la nation numéro un. Tout le monde se réjouissait. Voilà, ils avaient deux pages. Jésus leur dit, non, il y a deux pages là. Allez, tournez l'autre. Et puis il y en a deux pages qui sont blanches là. Le titre, les derniers tomes. Âge de l'Église. Oh, on ne savait pas que c'était là. Et comment est-ce que c'est annoncé prophétiquement? Il y a bien quelques prophéties à ce sujet-là, mais pas autant que pour le royaume. Mais il y a bien quelques prophéties. Et elles sont là, ces prophéties, on les connaît de l'Ancien Testament, mais ça a été pour ses disciples un choc incroyable. Si vous voulez, pire qu'une déception. Et quand vous pensez à ces deux disciples qui allaient à Emmaüs, et puis le Seigneur, là, qui leur ouvre les Écritures, leurs yeux étaient fermés. Fermés, tout simplement parce que pendant 3 ans, ils y avaient cru, et puis voilà, c'était fini. C'était fini. Alors que c'était le commencement, n'est-ce pas? Et nous sommes l'héritage de cela. Et peu à peu, arrivent de nouveaux messages par le Saint-Esprit, et puis ces messages viennent par les apôtres, et ces apôtres commencent à réfléchir, puis ils disaient, mais le Seigneur nous a dit ça, et il nous a dit ça, et il nous a dit ça, et il y a l'Écriture, et il y a l'Esprit, et il y a Pentecôte, et il y a des gens qui changent, et il y a des nations qui changent, et il y a ci, il y a ça. Toutes ces choses, toutes ces bénédictions commencent à se mettre en place. Alors bon, il faut recommencer depuis le début, revoir toute la parole, réétudier tout ça, voir est-ce qu'on a vraiment bien compris, est-ce que c'est vraiment pas lui, notre Seigneur, Jésus qui était le Messie. Et ils arrivent à cette conclusion, bien sûr, que c'était lui. Maintenant, ils le comprennent. Et maintenant, ils peuvent le prêcher. Et maintenant, ils peuvent aller dans les synagogues partout dans le monde. Et il y a des gens qui se convertissent, et il y a des nations qui se convertissent. Et il y a des milliers de chrétiens qui sont là et qui se font persécuter. Pourquoi? Parce qu'ils changent. Et ces hommes et ces femmes, à cette époque, ils changeaient complètement. Et pour un gouvernement local, quand ils avaient maintenant une nouvelle entité qui se comportait totalement différemment que les autres et qui était militante même sur là-dessus, avec succès, ils se sentaient désécurisés. Et ils avaient peur. Et toute persécution a comme origine quoi? La crainte, c'est clair. Alors, ils voulaient éliminer ce qui n'était pas normal. Et le plus on cherche à éliminer dans l'Église, le plus l'Église grandit. On le sait. Et nous devons, aujourd'hui, cette parole, et nous devons aujourd'hui, disons, l'héritage spirituel que nous avons reçu à ces jours. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et frères et sœurs, je nous vois tous ici. Qu'est-ce qu'on fait comme moyenne d'âge ici? 60 ans, peut-être? Nous avons besoin de jeunes. Nous avons besoin de jeunes. Il faut passer ce message. Nous avons besoin, aujourd'hui, d'instruire les jeunes systématiquement dans la parole de Dieu. C'est nécessaire. C'est même pas une option. Il faut le faire. Et il faut que nous exercions ces jeunes à prendre une semaine ou 2 semaines par année avec des sujets précis et à pouvoir les instruire dans la parole de Dieu. Dès l'âge de 13-14 ans jusqu'à l'âge de 20-25 ans, comme ça. Mais nous devons construire cette jeunesse pour le futur. Et non pas toujours nous reposer sur un pasteur qui est instruit. C'est très important que cela se fasse parce que les habitudes pour les familles du futur, elles se forment à cet âge-là. Et j'aimerais que vous priez avec moi pour cela. Parce que pour moi, c'est un fardeau. On aime bien de voir des jeunes qui suivent dans l'Église, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit des militants dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit des jeunes instruits, qui comprennent les choses, qui comprennent les taux, qui puissent passer la connaissance, passer la doctrine, passer l'exhortation, passer toutes ces choses. C'est très, très important. Bien. Par la force des choses, n'est-ce pas, les jugements vont créer un nombre incroyable de témoins pour le Seigneur. Et ces témoins vont être jugés. Vous savez, tous ceux qui seront morts pendant les jugements seront jugés avant d'entrer dans ce millénium. Et quelle va être la base du jugement? Regardons dans Matthieu 25. Matthieu 25 au verset 31. Sur lequel je vais vous prendre 15 minutes de plus ce soir. J'espère que vous ne vous endormez pas. Pour moi, je suis très excité dans ces sujets. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y songe. Parce qu'on a là noir sur blanc, hein, noir sur blanc de la bouche de Jésus, des choses qui vont se passer. Lorsque le Fils de l'homme, au verset 31, viendra dans sa gloire, avec tous les anges, hein, on a vu ça. Il s'assiera sur son trône de gloire, donc à Jérusalem, toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement pour les Juifs, ça va être toutes les nations. Tout ce qui va rester de ces nations. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à la gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Et on continue au verset 44. Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, et avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc voilà l'évangile qui aura lieu pendant le jugement. Et ceux qui auront mis en pratique cela pendant ces jugements, c'est-à-dire qui auront fait à ces plus petits ce triage, n'est-ce pas, du blé et de l'ivraie. Il va y avoir ce triage. Et c'est un triage qui est immanquable. Toujours il y a un triage. Mais voyez, le Seigneur, il fait grandir les choses dans un champ, ensemble. Il y a un arbre, les oiseaux habitent là-dedans. Quelles sont les oiseaux? Les oiseaux sont des... C'est un symbole de personnes qui n'ont rien à voir à faire avec l'arbre. Mais elles utilisent l'arbre pour elles-mêmes, n'est-ce pas? Elles utilisent ce que le roi construit pour elles-mêmes. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui ce que le Seigneur a installé sur la terre. Ils utilisent la sécurité judéo-chrétienne de nos lois et des bienfaits qu'on a. Et ça, c'est utilisé par ces oiseaux du ciel qui n'ont rien à faire avec le royaume. Et tout ça, ce sera trié. Tout ça, ça va être trié. N'est-ce pas? Mais Jésus, il a après ces deux paraboles du trésor dans le champ et de la perle. N'est-ce pas? Et quand j'étais petit, on disait toujours, oh, ça c'est l'Église. Non, ce n'est pas l'Église. C'est toujours la même chose. C'est l'évangile du royaume. Il faut bien comprendre ce que Jésus dit. Il dit ceci. Le message que je vous donne est comme ce trésor caché dans ce champ. Et que celui qui le trouve, il vend tout ce qu'il a pour obtenir ce trésor. Et la perle, c'est la même chose. Il regarde à tout ce qui est dans ce monde. Et il dit, il n'y a pas une perle qui compare avec celle-là. Et ils vont tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Maintenant, qu'est-ce que cette perle va lui faire s'il vend tout ce qu'il a? Avec quoi va-t-il manger? Ça lui est bien égal. C'est un achat de fou, si vous voulez. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous enseigne à voir ce qu'il nous donne. Et pour nous, qu'est-ce que le trésor dans le champ? Et qu'est-ce que la perle précieuse? C'est l'évangile. Si nous voyons ce que l'évangile est, qu'est-ce que ça signifie pour nous l'évangile? Mais tout! Parce que sans l'évangile, on n'est rien. Alors tout ce qu'on fait sur la terre, tout ce à quoi on s'occupe, si ce n'est pas pour l'évangile, c'est une perte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça change tellement de choses dans ma tête, dans la vôtre, j'en suis sûr. Il n'y en a pas un qui ne peut pas baisser la tête aujourd'hui. C'est dire, oh, si j'avais seulement compris ça, j'aurais probablement vécu différemment. Parce que, tout simplement, je n'avais jamais imaginé que l'évangile était un pareil trésor. Un pareil trésor. Le Seigneur veut notre cœur. Et le bénir par non seulement son évangile et son salut, mais par sa sagesse et par ses promesses. Et c'est ça qu'il veut. Et puis, il veut plus de nous. Il veut nos corps. On a vu ça ce matin, n'est-ce pas, dans le tabernacle. Nos corps sont le tabernacle du Saint-Esprit. Il veut plus que ça. Il veut ses corps. Et pourquoi est-ce qu'il les veut? Il les a, comme on a chanté, il les a mérités. Il les a rachetés. Ils sont à lui. C'est sa propriété. Et alors, il va nous envoyer. Est-ce qu'on est prêt de partir? Vous savez, on n'a pas besoin d'être jeune pour aller parler de lui, pour le servir. Tout le monde peut le servir. Tout le monde. On a vu des exemples toute la semaine à ce sujet-là. Eh bien, rappelons-nous. Voyons-nous l'évangile, voyons-nous ce royaume, voyons-nous notre Seigneur comme ce trésor dans le champ, cette perle incroyablement valable. Et que sommes-nous d'accord de payer pour l'obtenir? C'est pas que le salut n'est pas gratuit, il est gratuit. Mais, c'est qu'il y a un marché qui se fait. C'est qu'une fois qu'on a reçu le salut, on n'est plus à nous-mêmes. On n'est plus à nous-mêmes. Est-ce qu'on avance? Bien sûr qu'on avance. Qu'est-ce qui se passe? On est libéré. Libéré du péché, on est libéré, on est libre de la puissance du péché, on est libéré du jugement, on n'a plus de jugement, on n'a plus de crainte. La crainte de la mort, elle a disparu. Elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que sa mort a annulé la mort pour nous. Elle n'est plus là. Donc nous n'avons que la vie. Mais en attendant, c'est un message que Jésus voudrait que tout le monde sache. Et il n'est plus ici sur la terre. Mais il a ses représentants, et c'est nous. Donc nous sommes ses pieds, ses mains, sa bouche. Pour aimer, pour parler et pour communiquer. Comprenez? Chaque chrétien est un petit Jésus, nous en sommes. Donc c'est tellement important de voir cela. Et de dire, Seigneur, à tes mains, dans tes mains, je m'abandonne. Et tout ce que j'ai, et tout ce que je fais, tout ce que je suis. N'est-ce pas? Il y a un cantique qui parle de ça. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Mais c'est tellement important de voir ça. Ces gens du jugement, c'est juste du jugement. Ils avaient refusé la marque de la bête. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre. Ils étaient des parias. Ils ne pouvaient avoir aucun bénéfice. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient coincés. Ils devaient vivre avec ce qu'on leur donnait. Ou sinon, mourir, tout simplement. Ils étaient pourchassés. Ils étaient des illégaux. Mais ils se sont dit, avec l'évangile, je préfère être un illégal avec l'évangile. Et ils ont prêché dans toute la terre. C'est là où c'est 644 000 évangélistes qui ont été dans toute la terre. Bon. Et alors, avec le fruit de leur travail, ils entrent dans ce royaume. Mais le royaume, c'est une autre chose, comme on l'a dit. Là, il y a paix, mais une paix qui est conditionnelle à la soumission. N'est-ce pas? Conditionnelle à la soumission au Seigneur. Et là, il y aura une prospérité énorme dans la terre. Probablement, les climats vont changer, il y aura beaucoup de choses qui changeront, et chacun aura un jardin prospère. Et ils vont vivre dans des climats prospères. Et chacun connaîtra son roi, le reconnaîtra, et ils aimeront sa parole. Il y aura une attitude extraordinairement différente. Et pour nous, les rachetés qui seront sur la terre et qui régneront avec le Christ, nous pourrons communiquer avec ces gens. Parce qu'on sera aussi très différents, hein, étant l'épouse de Christ. Il n'y aura plus de péché en nous. Il n'y aura plus de mémoire de péché. Il n'y aura plus de... On sera des gens différents. On aura un corps différent, on aura un corps glorieux. Si on a un corps comme, on aura un corps comme le Seigneur, ce qui est très probable, on pourra marcher au travers de ses parois, il n'y aura pas de problème. On ne sera pas soumis aux lois de la création. Il y aura des communications instantanées avec Jésus. Pas besoin de téléphone. Ce sera instantané. il va y avoir, ça va être toute autre chose dans ce règne. Et on sera utilisé partout où le Seigneur nous veut. Transport très rapide, spirituel. Donc, vous vous imaginez, ça va être un monde très très différent. Et pourtant, nous pourrons communiquer avec ces hommes, ces femmes et tous ces petits-enfants qui vont naître. Ça va être très beau. Ça va être un très beau royaume. Et pourquoi est-ce que le Seigneur veut faire ce royaume? Parce qu'il l'a promis. Il l'a promis à Abraham et il va le faire. En toi, toutes les nations seront bénies. Imaginez-vous, comme on a vu hier soir, mais c'est énorme cette histoire. Les promesses à un homme par Dieu, il a fallu tout ce travail pour qu'elles s'accomplissent finalement à ce moment quand Jésus viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, je vais vous poser une question. Quelle est la première personne qui ira en enfer? Non? Non? Il n'y a pas de gens en enfer pour le moment. Qui sera la première, les premières personnes en enfer?
Le jugement est à la fin pour l'enfer. Parce que le jugement,
comme
vous l'avez dit, c'est
qu'ils
vont au ciel.
Oui. Il y en a. À la fin du règne, le point 6, n'est-ce pas, il y aura ce qu'on appelle le grand trône d'or. À ce moment-là, il y aura des gens qui vont en enfer. Mais il y a déjà un enfer. Et il y a déjà quelqu'un dedans. Qui va s'arrêter?
Le séjour des morts?
Non, pas le séjour des morts, l'enfer. Non, la bête, elle faut prophète. Ce sont les deux premiers qui rentrent. Oui, c'est les deux premiers qui rentrent. Ils vont rentrer ici, à la fin du jugement. Et puis Satan vient beaucoup plus tard là-dedans. Parce qu'il doit être délié, hein, à la fin du règne. N'est-ce pas? Et c'est après, quand il a fait tomber tous ces gens, ou disons une grande partie des gens du. Une partie des gens du règne, à ce moment-là, devant le grand trône blanc, il est le premier jeté en enfer, avec toutes ses armées et tout. Mais les deux premiers qui vont là-bas, c'est la bête et le faux prophète. Et ça, c'est intéressant quand on échange. C'est les hommes qui vont là-bas. Et qui est le premier sur le trône? C'est un homme aussi, le fils de l'homme, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Non, c'est merveilleux quand on échange de voir la symétrie des propos de Dieu. Je vais lire encore un dernier passage avec vous et puis on va terminer avec ça. Au psaume chapitre 2.
Dans l'Apocalypse 27,
le jugement dernier. Oui, c'est ça. Psaume chapitre 2 est un psaume qui est bien connu. Et ce psaume se situe à la fin de ce millénium. Et si vous voulez lire encore plus de ces descriptions de la fin du millénium, vous allez dans Ésaïe 24. Et là, ça vous donnera 24 et 25. Ça vous donnera encore d'autres passages à lire. Et puis, si vous voulez lire encore d'autres passages sur l'installation du millénium, c'est les cantiques d'Azaph à partir du psaume 45. Deux. Oui. 45, donc à partir de 45, c'est l'installation du royaume et les psaumes qui suivent, tous les psaumes d'Azaph. Et puis, dans Ésaïe 24, nous avons aussi la fin du millénium. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens. Et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur. Il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. C'est un psaume fort, hein? Un psaume fort. Et ça, c'est le cas, la caractéristique du royaume, n'est-ce pas? Il y aura des chefs, il y aura une politique dans le royaume, il y aura des rois. Jésus sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il y aura des seigneurs, il y aura des rois. Et à la fin de ce royaume, il va y avoir une ligue qui va tâcher de dire, oh, mais pourquoi est-ce que Jésus devrait être le seul roi? N'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas régner nous-mêmes? Après tout, quelle ambition d'être le roi de la terre, voyez? Et ça, c'est le péché que le sceptre de fer va casser, n'est-ce pas? C'est ce péché-là. Est-ce qu'on a un exemple prophétique de ça? Bien sûr qu'on a un exemple prophétique. C'est dans le désert, quand les fils de Corée sont venus vers Moïse, et ils ont dit, quoi? Toi, tu crois que tu es le seul qui discerne la volonté de Dieu? Tu crois que tu es le seul à savoir vraiment ce qui est le meilleur pour nous? Et Moïse est tombé face contre terre. Il est allé vers l'Éternel. On ne sait pas ce qu'il a dit à l'Éternel. Mais on peut bien s'imaginer, comme on connaît Moïse, qu'il a plaidé pour le peuple. Toujours est-il qu'il a dit, faites le vide autour de ces tentes, les fils de Corée. Et qu'est-ce qui est arrivé? La terre s'est ouverte et a englouti tous ces gens. Ouais. Eh bien ça nous parle, c'est une petite image du royaume. Voilà ce qui va se passer. Donc ça va être un royaume dur. Ça va être un royaume très très dur. Et l'homme va prendre la soumission, la vraie soumission dans l'Éternel, à sa loi et à sa présence. Il y aura la crainte de Dieu, une véritable crainte. Ça va être une autre crainte que ce que nous connaissons. Mais je vous en parle parce qu'aujourd'hui, on a tendance dans les églises à avoir un Jésus qui est un petit peu copain. Vous voyez ce que je veux dire? Notre Jésus n'est pas un copain. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est en droit d'avoir notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, notre temps et spécialement notre cœur. On va prier. Dieu Père, merci. Merci parce que tu nous as rassemblés autour de ta précieuse parole et tu nous interpelles ce soir, tu m'interpelles aussi. Et tu me dis, Seigneur, comment tu me montres, Seigneur, combien ce que j'ai encore a de progrès à faire pour que je comprenne même un petit peu ce que toi tu as abandonné dans le ciel pour obéir à ton Père et pour accomplir cette œuvre nécessaire à mon rachat. Ô Seigneur, je ne peux même pas comparer ce que je pourrais te donner, ce que je pourrais faire pour toi ce soir, à ce que toi tu as fait pour moi. Et c'est bien naturel que tu réclames ton dû, parce qu'en effet, tu nous as rachetés, tu m'as racheté, et cela pour l'éternité. Oh, je veux te louer, te bénir, ô Seigneur, de ce que tu m'as donné, non seulement la vie éternelle, mais tu m'as donné, Seigneur, cette place en toi-même, qui me protège pour maintenant et pour l'éternité. Et je voudrais, Seigneur, te prier pour s'il y avait quelqu'un dans cette salle qui n'est pas encore 100% sûr d'appartenir à ton troupeau, que son âme n'est pas encore en paix en ce qui concerne sa position devant toi. Oh, je te prie pour que tu l'interpelles. Et Seigneur, que ce soir, elle mette en ordre cette chose avec toi, qu'elle sente ton esprit la mouvoir dans cette direction. Ô Seigneur, je te prie pour cette personne et je te prie pour nous tous, Seigneur, afin que nous soyons tous interpellés aussi, non pas seulement par le temps qui passe, mais par l'importance de cet évangile, l'importance de ta parole, l'importance de racheter le temps de tout ce que nous faisons. Oh Dieu et Père, merci parce que tu es si patient et si gracieux à notre égard. Et nous sommes tes enfants et nous sommes tes bienheureux enfants. Parce que notre bonheur vient du Seigneur Jésus, vient de sa gloire, vient de ce qu'il est et de ce qu'il nous a promis et de là où il nous a placés. Ô Dieu et Père, nous ne pourrions pas être dans une meilleure place quand nous songeons que nous sommes épouses de Christ. Quelle perspective, ô Dieu et Père, quel amour de sa part. Et nous voulons te louer dans ce beau nom, ce nom par lequel nous avons été sauvés, ce seul nom. Ce nom devant lequel tous les genoux se ploieront. Ô Dieu Père, nous l'élevons devant toi. Nous t'admirons pour avoir pensé à l'envoyer, être venu parmi nous pour qu'il nous comprenne, pour qu'il puisse nous communiquer ton cœur. Ô Dieu Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Merci d'être venu à nous aussi vraiment. Et demain, ce sera la dernière fois avec du temps familial, supérieur. Après, c'est vite, hein? C'est vite, trop vite. Et vous êtes tous invités à vous joindre à nous demain pour cette dernière fois. Maintenant, vous invite aussi à une relation qui a continué à fraterniser et à méditer sur le message que vous venez d'entendre. Ce que nous avons dit en plein d'année. Thank you.